Je vais parler cette semaine de Baudelaire et du poème Spleen, le numéro 76 des Fleurs du Mal. Voici le poème. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir, encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière aboré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles bouchers seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais, tu n'es plus, aux matières vivantes, qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche. Il s'agit évidemment de l'être du moi. Et je dois dire qu'en me lançant dans cette série de cours, je ne pensais pas parler autant que je le fais de l'être du poète ou de celui qui parle dans le poème. Et que remarque d'abord un Anglais ? Probablement que les souvenirs sont pénibles. Un Anglais habitué à Wordsworth sait que dans sa poésie, l'être se trouve dans la mémoire. Selon une expression célèbre, l'enfant est le père de l'homme. L'enfant est le père de l'homme, puisque les souvenirs constituent l'être. Et en reliant ensemble les mois successifs par lesquels il passe, pour que l'enfant soit encore présent dans l'adolescent, dans le jeune adulte et dans le vieillard. Et on sait que chez Wordsworth, la mémoire est un bonheur, c'est une découverte, et que le souvenir est créateur. Le présent change le passé, on revoit ses expériences du passé avec le moi de maintenant, dans des circonstances actuelles, et le passé change le présent. Le passé revient pour guérir l'être présent. C'est une pensée qui mène progressivement vers Proust. Alors que dans Baudelaire, ou plutôt dans ce poème de Baudelaire, les souvenirs encombrent le cerveau, vers 2, et les souvenirs sont morts. Le cerveau est un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Ces morts-là sont évidemment les souvenirs, les fragments du passé de Baudelaire ou de celui qui parle. Et cela à cause de l'ennui, du spleen, j'y reviendrai, et à cause des remords, du vers 9. Il me semble qu'il y a la même distinction entre le remords et le repentir qu'entre la honte et la culpabilité. Avec la honte, on reste prisonnier du moi, de l'amour propre. On regrette d'avoir fait quelque chose d'idiot, de stupide, ou même de très méchant, qui ternit l'image que l'on a de soi-même. Alors que par la culpabilité, on sort du moi en reconnaissant une faute commise à l'égard d'autrui. Et de la même façon, avec le remords, on reste dans le moi, alors que par le repentir, on sort du moi avec la résolution de changer. Et Baudelaire le comprend parfaitement bien et remue les remords dans ce poème, les remue sans doute volontiers, des remords qui se traînent comme de longs vers. Et un Anglais remarquerait peut-être aussi, je ne dis pas que les Français ne le remarqueraient pas, mais un Anglais remarquerait aussi que le moi est un chaos. Les objets dans les tiroirs d'un gros meuble fourmillent, un peu comme les fragments du moi de Baudelaire fourmillent dans l'être de Baudelaire. Il remarquerait aussi l'hétérogénéité. Ce vers, par exemple, où des cheveux sont roulés dans quoi ? Dans les quittances. Les cheveux roulés sont pleins de pathos, ce sont les cheveux d'un être perdu, je suppose, alors que les quittances sont précisément exemptes de pathos. Il faut remarquer aussi la juxtaposition dans le vers 3 de billets doux et de procès. Rien n'est laissé au hasard. On passe de billets doux à des procès. Avant le procès de Baudelaire, d'ailleurs, il y a une sorte de signe avant-coureur, peut-être. Et dans ce même vers 3, on note qu'on passe de vers au début à des romances à la fin, comme si Baudelaire disait, sans avoir besoin de le dire, que le spleen atteint même son activité de poète. Des merveilles de la poésie, c'est qu'on peut dire des choses sans les dire. On les suggère par des juxtapositions, par des sonorités, etc. Le moi est un chaos. Et je note aussi que tous les objets dans les tiroirs de ce grand meuble, à la seule exception des cheveux, sont des écrits. Bilan, vers, billets doux, procès, romance, quittance. Étant donné qu'il s'agit de Baudelaire, ce n'est pas par hasard. Et chez un poète d'une génération ultérieure, chez un poète de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, on dirait tout de suite que c'est parce que le poète se sent encombré par les écrits du passé. Par les écrits du passé, il y a un fourmillement, une surabondance d'écrits dans le poème, précisément parce que Baudelaire, dans l'acte même, le poète, dans l'acte même d'écrire, souffre de cette accumulation d'écrits qui existent déjà. On le dirait à propos d'un poète d'une génération, des deux générations suivant celle de Baudelaire, qui n'ont pas découvert ce poids du passé, bien sûr. L'expression la plus célèbre du poids du passé sur l'écrivain vient après tout de La Bruyère, vers la fin du XVIIe siècle, lorsque La Bruyère écrit « Tout est dit ». Et nous venons trop tard. C'est une expression célèbre, mais elle est encore étonnante. Tout est dit et nous venons trop tard. Et de temps en temps, certains écrivains et certaines générations d'écrivains redécouvrent ce poids des écrits du passé. C'est une pensée qui va jusqu'à Eliot dans La Terre vaine ou La Terre gaste, qui est le texte même de cette accumulation incontrôlable des écrits du passé, des écrits qui ont été faits par des écrivains bien supérieurs à celui qui est en train d'écrire. Et il est toujours possible que Baudelaire, dans Spleen, avait cette intuition. Ce n'est pas clair, mais pourquoi sinon est-ce qu'il aurait inclus parmi les objets dans les tiroirs du gros meuble tant d'écrits ? Et il est certain que dans Spleen, le fait d'écrire ne dissipe pas le chaos, mais l'augmente. Et en effet, il y a, j'allais dire dans le poème, une pléthore de choses, d'objets. Les objets ne sont évidemment pas dans le poème. Mais, en plus des objets qui se trouvent dans les tiroirs, il y a des roses fanées, des modes surannées, des pastels, des tableaux de boucher. Notons en passant le pouvoir de Baudelaire d'inventer un vocabulaire que les poètes après lui vont exploiter. Hein. Fané, suranné, nous sommes déjà dans la poésie de Verlaine, comme les amours défunts du poème précédent, qui s'appelle aussi Spleen. Vous savez qu'il y a une série de quatre poèmes qui s'appellent Spleen. Le poème précédent, le numéro 75, parle des amours défunts. On est déjà dans la poésie de Verlaine et un peu dans la poésie de Mallarmé. Il y a une surabondance de choses. Comme dans la poésie anglaise, après tout, j'ai beaucoup parlé l'année dernière et l'année d'avant de la présence des choses concrètes dans la poésie anglaise. Mais il me semble que non, que l'écriture de Baudelaire n'est pas du tout anglaise ici, elle est tout à fait, enfin, elle est sienne, je ne sais pas s'il est particulièrement française, sauf que, mais là, je m'avance avec beaucoup d'hésitation, sauf que la structure de l'alexandrin me semble ordonner les objets et les placer dans l'esprit du lecteur avec beaucoup plus de rigueur que ne le fait le pentamètre anglais. Par exemple, surtout à cause de la césure, un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, où c'est une pyramide, un immense caveau, etc. Les objets sont reçus dans une structure prosodique qui est aussi une structure mentale. Cela ne signifie pas qu'ils perdent de leur réalité. Ça, c'est un point de vue anglais, que dans la poésie française, les choses perdent leur réalité tout de suite à cause de la vertu, précisément, de la poésie française. Ce n'est pas le cas. Ces objets restent ce qu'ils sont, mais même décrits simplement ou simplement nommés, quittance, procès, ils sortent du quotidien. Et les objets dans un poème anglais aussi sont reçus dans un monde poétique. C'est évident, dès que l'on fait un poème dans n'importe quelle langue, on enferme, c'est pas le verbe qui convient, ce n'est pas la métaphore. On reçoit, on accueille dans une structure prosodique un monde, des émotions aussi bien que des choses, etc. Mais le pentamètre iambique laisse, me semble-t-il, mais est-ce que c'est simplement parce que je suis anglais, laisse les objets presque indépendants du vers. Le vers ne les contrôle pas d'une façon évidente comme le fait l'alexandrin. Et j'en donne un contre-exemple. Le vers 3 de Baudelaire fait penser au vers 138 de la boucle volée de Pope. Bah, évidemment. Où Pope décrit les objets qui se trouvent sur la table de toilette de Belinda. Belinda, c'est l'héroïne de la boucle volée, dont la boucle va être volée. Et sur la table de toilette de Belinda, Pope note puffs, powders, patches, bibles, billet doux. houppette, poudre, mouche, bible, billet doux. Et il est clair que ce que Pope cherche dans ce vers, c'est la possibilité de placer le mot « Bible ». Il cherche l'incongruité de ces objets, au pluriel, curieusement, de ces objets, parmi les autres objets de l'orgueil féminin. Et il a donc besoin de l'ordre du vers afin que l'incongruité des bibles parmi les poudres, les mouches à mettre sur la joue, etc., pour que cette incongruité saute aux oreilles, pour ainsi dire. Il crée donc un ordre dans le pentamètre qui n'est pas là d'office, pour ainsi dire. Dans le pentamètre, il y a un rythme qui monte, comme vous le savez. On passe d'une syllabe moins accentuée à une syllabe accentuée, un, etc. Et quand on le fait, l'anglais n'y pense pratiquement pas, parce que ça semble naturel. Et d'ailleurs, c'est assez près de la façon de parler des Anglais dans la vie quotidienne, dans les conversations. Pope, pour créer une structure que l'on entend et dont on devient conscient, inverse les pieds. Excusez la technicité de la chose, mais enfin, on parle de la poésie et d'un poète aussi conscient de ce qu'il faisait que Baudelaire. Il inverse les pieds. Au lieu d'un temps moins fort et d'un temps fort, on passe d'un temps fort à un temps moins fort par le fait que tous les substantifs du vers commencent par une syllabe accentuée. Puffs, powders, patches, bibles, billet doux. Je prononce billet doux, évidemment, à la façon anglaise. Les objets dans le poème sont donc accueillis dans une structure prosodique et, ce qui est beaucoup plus important, les objets sont des décors. Ils n'existent pas. Ils servent simplement de comparaison ou de métaphore. Il n'y a dans le poème, à strictement parler, ni gros meubles, ni pyramides, ni cimetières, ni vieux boudoirs, ni granit, ni vieux sphinx. Et quand on y pense, c'est une idée géniale, parce que, encore une fois, Baudelaire dit, sans avoir besoin de le dire, que le spleen ou l'ennui réduit le monde à un décor. Ces objets-là ne sont pas dans le poème. Il dit « je suis comme ceci » ou « cet objet-là a moins de ou plus de ». L'ennui réduit le monde à un décor et enlève au réel sa réalité. Et pour reprendre une discussion de l'année dernière, le poème est le produit de l'imagination et non pas de la fantaisie, une distinction que Coleridge a faite et rendue célèbre. La distinction que je vois personnellement, c'est que la fantaisie, comme je l'ai dit, crée un monde autre qui n'éclaire pas le réel, alors que l'imagination cherche le réel afin de le voir à nouveau et recréer le réel. Baudelaire pensait ainsi, heureusement pour moi. Dans les notes nouvelles sur Edgar Poe, encore lui, il écrit « L'imagination n'est pas la fantaisie. L'imagination est une faculté quasi divine qui perçoit tout d'abord, en dehors des méthodes philosophiques, les rapports intimes et secrets des choses, les correspondances, les analogies. » Au début, il cite Poe, qui cite Coleridge. Ensuite, il intervient lui-même, et je remarque que, pour Baudelaire, l'imagination perçoit les rapports. L'imagination ne les crée pas, elle les perçoit. Et ici, dans notre poème, l'imagination perçoit les rapports entre un moi accablé par le spleen et, par exemple, des tiroirs encombrés de choses ou un boudoir plein d'objets. Et plus précisément, entre un moi splinétique et des écrits périmés et des choses fanées et surannées. Le spleen vous fait vieillir. Et par son idée de la métaphore, Baudelaire retrouve Aristote, je ne sais pas s'il serait content de le savoir, dans le 22e chapitre de la Poétique, Aristote dit tout simplement « Une bonne métaphore naît de la perception intuitive d'une ressemblance existant entre des choses dissemblables. » C'est évidemment important pour la recherche de l'être. On perçoit vraiment quelque chose dans son rapport avec autre chose, non pas en lui-même. Et l'imagination n'est pas une simple faculté du poète, du peintre, etc. Elle est nécessaire. Sans elle, nous ne percevons pas les rapports entre des choses dissemblables. Et parmi les figures, la métaphore ne s'apprend pas. Ce n'est pas une chose que l'on invente. Elle fait partie, ou non, de la capacité intrinsèque du poète. C'est précisément pour cela, d'ailleurs, que certains poètes romantiques anglais ont passé par une grande angoisse. Wordsworth, à un certain moment, Coleridge, pendant très longtemps. Si l'imagination est nécessaire pour que l'on soit poète, et même pour que l'on soit un être humain en rapport avec le réel, perdre l'imagination, trouver que l'on ne voit plus des rapports, qu'on est en quelque sorte obligé d'inventer, non pas par l'imagination, mais par la fantaisie, signifie qu'on n'est plus poète. Et nous sommes donc plongés dans un poème sur l'ennui, où le poète dit qu'il est à un cimetière, etc. C'est évidemment un peu, comme on dit en anglais moderne et comme on va sans doute le dire en français, un peu over the top. Est-ce simplement une version française de Byron? Baudelaire serait-il un remake de Byron? Je pose la question sérieusement. Je vais dire non, bien sûr. Mais la question est sérieuse dans le sens que Baudelaire admirait Byron. L'Angleterre à Shakespeare et Byron, dit-il, comme l'Allemagne à Goethe. Et Baudelaire savait aussi, et ça c'est plus important, hein, plus intimement poétique, Baudelaire savait, ou devait savoir, que sa façon d'être était originale et intéressante. Il n'était pas comme Hugo, il n'était pas comme Gautier, il n'était pas comme tous les autres, mais il n'était même pas comme Nerval. Sa façon d'être était originale et intéressante, et il l'exploitait. Pourquoi pas? Mais en lettres majuscules, il est évidemment différent de Byron, d'abord par la profondeur de sa pensée, j'y reviendrai, par la précision des images, des métaphores et des comparaisons, par la structure. La structure du poème est extrêmement rigoureuse. J'ai, je suis, tu n'es plus. Et au fond, la proposition du poème, sur la linguistique chomskyenne, j'y reviendrai. Le poème contient toutes les formes de la comparaison. Au vers 5, cache moins de secrets. Au vers 7, contient plus de morts. Au vers 15, rien n'égale. On a le moins, le plus et l'égalité. Au vers 9, il y a le mot même de la comparaison, comme des remords. Baudelaire est sans doute conscient du fait qu'il structure la comparaison en utilisant toutes les formes possibles. Et il est vrai qu'un poète français, organise son poème, la plupart du temps, avec la même rigueur qu'emploie la syntaxe française pour organiser la proposition. Ça, c'est encore une chose qu'un Anglais peut remarquer. Un Français peut le remarquer, mais un Anglais a l'habitude d'une langue qui est bien moins structurée que le français et qui se déroule dans le temps, comme vous le savez. Et d'une poésie aussi dont l'organisation est différente. Je ne dis pas que les poèmes anglais sont moins bien organisés que les poèmes français, ce n'est pas le cas. Mais l'organisation est moins évidente, un peu comme l'exemple évident. Les pièces de théâtre de Shakespeare sont merveilleusement bien organisées, diablement bien, génialement bien, mais on ne remarque pas leur organisation comme on remarque l'organisation d'une pièce de Corneille, de Racine ou de Rotrou. Et Baudelaire est supérieur non seulement à Byron, mais à presque tout le monde, par le travail sur les mots. Le poème est relativement court, 24 vers, si j'ai bonne mémoire, oui, mais le travail sur les mots est constant, inlassable. Est-ce que le vers aurait été mémorable s'il avait écrit « Je suis un cimetière détesté de la lune » Non, abhorré est une trouvaille, c'est le poète génial qui tombe sur le verbe, le participe passé qu'il fallait. Un cimetière abhorré, c'est presque aussi étrange que la tour abolie de Nerval, ou au vers 17, l'ennui fruit de l'amant en incuriosité. L'ennui s'exprime dans le mot fruit qui, on répète les sauts dans une sorte de morne répétition. Et je note, et ce n'est pas vraiment en passant, parce que c'est important, qu'à l'origine, Baudelaire avait écrit « L'ennui, fils de la morne incuriosité ». Et que dans une lettre à l'éditeur, où il a fait le changement sur les épreuves, Baudelaire demande le changement en disant « Cette correction, puérile en apparence, a une valeur pour moi. » Je trouve cette ironie très attachante. Il devait penser que pour l'éditeur, Malassis, le changement de fils en fruit n'avait pas beaucoup d'importance. La correction a une valeur extrême qui permet à Baudelaire, encore une fois, de dire que l'ennui se reproduit, même dans les mots que l'on utilise. Ayant dit ennui, on dit fruit. Ou au vers 9, 10, se traîne de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Le verbe s'acharner contient, par l'étymologie, le mot « chair », on pourrait probablement le deviner, contient le mot « chair » et on sent que les vers mangent la chair de mes morts. Il y a le même travail dans les adjectifs. Il faut regarder tous ces petits détails. Il y a une façon pédante de les regarder, j'essaierai de l'éviter. Le travail sur les adjectifs est... Il y a bien plus d'adjectifs antéposés dans ce poème que postposés. Tiens, que c'est intéressant. Mais oui, c'est intéressant. On ne remarque pas, par exemple, un gros meuble, ça semble normal, ou de longs vers. Au vers 11, Baudelaire écrit d'une façon tout à fait française, « Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées. » Vieux est antéposé, mais fané est postposé, c'est tout à fait normal. Et on sait que Baudelaire s'intéresse aux adjectifs et au fait qu'ils peuvent devenir substantifs. On le sait parce que dans plusieurs poèmes, il crée une expression ou un sens supplémentaire naît du fait qu'on l'on ne sait pas lequel des deux mots juxtaposés est l'adjectif et lequel est le substantif. Dans le poème « L'idéal », par exemple, il parle de « mon rouge idéal ». Son rouge idéal, c'est Lady Macbeth. « Mon rouge idéal », s'agit-il d'un idéal qui est rouge ou d'un rouge qui est idéal ? Dans le poème suivant le nôtre, le poème « Spleen », 77, il parle de ce cruel malade. Encore une fois, c'est un malade qui est cruel ou un cruel qui est malade. Et évidemment, les deux sens sont présents, c'est ça l'idée. Et encore une fois, je note qu'à l'origine, il avait écrit ce royal malade. Autrement dit, le travail sur l'adjectif était tout à fait conscient. Ici, il ne s'agit pas de cela, mais on voit qu'il réfléchit aux adjectifs et au sens qu'on peut donner à la position de l'adjectif. Car l'antéposition devient parfois tout à fait remarquable. Dans les vers 15-17, « Rien n'égale en longueur les boiteuses journées quand sous les lourds flocons des neigeuses années l'ennui, fruit de la morne incuriosité. » Tous les adjectifs précèdent les substantifs, devrais-je dire tous les épithètes précèdent les substantifs, comme on le dit dans le Beau Monde. Et vous savez qu'en général, en français, on nomme l'objet d'abord et ensuite ses accidents. C'est évident pour quiconque a étudié l'anglais. Vous dites une pomme verte. Nous disons une pomme verte. Alors qu'en anglais, on nomme d'abord ce que l'on rencontre par les sens, par les émotions, etc. Et ensuite, l'objet, une verte pomme. Et dans ce poème, on éprouve d'abord l'effet de quelque chose. Après tout, en français, on a tendance à mettre l'adjectif après le substantif. C'est vraiment une tendance, parce que ce n'était pas le cas jusqu'au XVIIe siècle. Mais ici, on éprouve d'abord l'effet de quelque chose, les boiteuses années, la morne incuriosité. Et ailleurs dans le poème, mon triste cerveau, un immense caveau. Pourquoi ? Mais parce que l'ennui produit un état en nous où nous sommes conscients d'abord de ce que nous éprouvons. Nous sommes enfermés dans nos propres sentiments et où notre approche du monde passe par l'horreur dans laquelle nous vivons. Nous ne sommes pas en contact avec les choses, nous sommes en contact avec l'émotion que les choses créent en nous. Autrement dit, encore un petit détail technique sert une vision de l'être et permet à Baudelaire de dire quelque chose, encore une fois, à propos de l'ennui, sans le dire. Ensuite, le travail sur les diérèses, où l'on sépare deux voyelles qui se suivent. Les diérèses sont assez fréquentes dans la poésie de l'époque et dans le poème de Hugo que nous avons regardé l'autre semaine, à Albert Dürer, on trouve des expressions comme « ton œil visionnaire ». J'exagère un peu, mais il faut quand même faire la diérèse pour avoir l'hémistiche. « Ton œil visionnaire » et « aux végétations ». Mais ici, dans les vers 17-18, on tombe sur l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Alors, encore une fois, j'exagère, mais il faut quand même marquer ces longueurs et noter que les diérèses sont ennuyeuses. Ici, exprime l'ennui précisément au moment où Baudelaire parle de l'ennui. C'est un très bon poète, hein, il sait ce qu'il fait. ce ne sont pas des détails puérils. Ils ont une valeur pour moi. C'est par la présence incessante dans un poème d'une intelligence poétique que l'on reconnaît le grand poème et le grand poète. Et il est vrai que Baudelaire, tout en admirant Byron, mais je ne sais pas, en fait, pour ouvrir une sorte de parenthèse, je ne sais pas dans quelle mesure il admirait Byron parce qu'il avait bien étudié son œuvre, ou parce que, comme ça, Byron était tenu pour le grand écrivain de l'époque et il supposait que c'était un grand écrivain. Comme nous, sans lire Goethe, nous dirions, évidemment, Goethe est le plus grand génie littéraire de l'Allemagne. Je ne sais pas, en fait, dans quelle mesure il admirait réellement Byron, j'aimerais bien savoir. Mais ce que je sais, parce que là, c'est dans les textes de Baudelaire, c'est qu'il trouvait néanmoins chez Byron une grande perplexité et du verbiage. C'est assez dur, finalement. Autrement dit, même s'il admirait l'état d'esprit de Byron, la modernité de Byron, le fait que Byron jouait sa personnalité d'une façon très décadente et dandy-esque, il devait se dire qu'il ne pouvait pas, lui, écrire comme Byron, parce qu'il fallait quand même la précision et l'art que lui seul, Baudelaire, était capable d'atteindre. Et puis, surtout, par rapport à Byron, Baudelaire se dédouble pour regarder et peut-être pour juger ce qu'il fait, ce qu'il écrit. Cela est vrai de Byron de temps en temps, je l'ai dit dans un cours de l'année dernière. Byron aussi était capable de voir qu'il jouait sa personnalité, qu'il y avait quelque chose d'un peu exagéré et même d'un peu comique dans les personnages qu'il créait. Mais c'est rare, c'est de temps en temps seulement. Alors que chez Baudelaire, on trouve des choses comme vers 9, vers 10, ou comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Alors, les vers qui mangent les morts, on croyait autrefois que dans le tombeau, il y avait des bestioles qui grignotaient les cadavres, etc. Baudelaire sait bien qu'il utilise une image démodée, une image gothique. Mais l'intelligence de Baudelaire se voit d'abord dans sa charme, comme je l'ai dit, ensuite dans le fait que les vers mangent plutôt des souvenirs, c'est son passé qui meurt et qui est mangé par des remords, et surtout dans ce qui me semble être un jeu de mots. Alors, encore une fois, un Anglais est habitué à trouver des jeux de mots dans la poésie anglaise, dans Donne, Shakespeare, etc. Peut-être que j'exagère, mais je ne peux pas penser que dans un long vers qui se traîne, ou comme des remords se traînent de longs vers, Baudelaire n'est pas à l'esprit l'autre sens du mot vers, surtout qu'au vers 3, le mot vers signifie vers de poésie, évidemment, comme les romances. Autrement dit, il crée à la fois un vers qui se traîne comme l'ennui. Après tout, il écrit sur le spleen, le vers même traîne comme les boiteuses journées, et une sorte de comédie, une sorte de deuxième perception de ce qu'il fait, une arrière-pensée qui lui permet, en un sens, de dire au lecteur, ce que je dis est très sérieux, l'ennui existe, le spleen existe, peut-être que si on lui posait la question, il lui dirait, c'est la version moderne de l'accédia médiéval, c'est vraiment le péché le plus désespérant, et c'est l'état psychologique le plus désespérant, mais en même temps, quand on se trouve dans cette situation et quand on écrit sur cette situation, il faut avoir l'intelligence de se reprendre et de voir qu'il y a quand même une sorte de comédie à être dans un état si extrême. Et Il est possible aussi que les « je suis » sont volontairement exagérés. « Je suis un cimetière abhorré de la lune hein ». Il y a peut-être encore plus d'autodérision que chez Nerval. « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé ». Et je note que le cimetière naît d'une association d'idées. Il vient d'écrire que la fosse commune. Et il enchaîne tout de suite. « Je suis un cimetière, abhorré de la lune ». Et je pense qu'il veut que nous le remarquions, que le cimetière vient d'un mot qu'il a utilisé simplement comme une comparaison. « Je suis un vieux boudoir » aussi est presque comique. L'idée que Baudelaire soit comme un boudoir du XVIIIe siècle, plein de pastels et de bouchers, fait un peu sourire en même temps que l'on comprend qu'il souffre réellement. Et je ne pense pas que ce soit finalement un point de vue anglais qui perçoit une sorte de conscience de soi comique dans le poème. Parce que quand on passe au poème suivant, « Je suis comme le roi d'un pays pluvieux », on trouve beaucoup d'exagérations évidentes et volontaires. Tout cela pour montrer à quel point Baudelaire s'éloigne, peut-être volontairement, de Byron. Et on le comprend si on ne fait pas une explication de texte, mais une explication de l'acte poétique. Et il est vrai que la profondeur de vie intérieure promue par les romantiques, et en particulier par Byron, mais pas uniquement par Byron, parce que c'est vrai aussi de Keats et de Wordsworth, etc., cette vie intérieure du poète romantique a eu très mauvaise presse. Moi-même, j'en dis souvent beaucoup de mal, dans le sens que le poète est tenté de s'occuper de la richesse de sa personnalité, mais en elle-même, cette étude des recoins et des recels de l'être que Baudelaire perfectionne, de mon être, de l'être du poète, est bénéfique. Il s'agit simplement de faire quelque chose de non narcissique avec ce que l'on découvre en soi. C'est évidemment le cas de Baudelaire, parce que Baudelaire étudie, en effet, ce qu'il trouve en lui. Qu'est l'ennui ? C'est une morne incuriosité, d'abord, un repliement sur soi. Et vous savez peut-être que dans Le peintre de la vie moderne, il dit de l'artiste Constantin Guis que la curiosité peut être considérée comme le point de départ de son génie. Baudelaire était tout à fait conscient du fait qu'il faut de la curiosité, il faut le désir d'aller vers ce qu'il y a autour et en dehors de soi pour être peintre, graveur, poète, etc. Et s'il écrit un poème sur le spleen qui est le contraire, c'est précisément parce qu'il a horreur de se trouver dans l'incuriosité. C'est être mort au monde. L'ennui prend les proportions de l'immortalité, dit-il. Et ce n'est pas une simple métaphore pour dire que quand on s'ennuie, le temps pèse, comme si Baudelaire pensait comme tout le monde. L'ennui, pour Baudelaire, est une triste parodie de l'immortalité. L'ennui est aussi un anti-émerveillement. Je parlais tout à l'heure de l'être, qui est le sujet du cours de la deuxième heure. Maintenant, je vais parler de l'émerveillement, qui est le sujet du premier. Dans ce poème, on est encombré de souvenirs et sans avenir. C'est tout le contraire de l'émerveillement. Tout est vieux. Vieux boudoir, vieux sphinx, comme dans les autres spleens d'ailleurs. Et il ne se passe rien. De tous les verbes, parce qu'il y a aussi un travail sur les verbes dans le poème, de tous les verbes, les seuls vraiment actifs concernent les vers de la mort qui se traînent et s'acharnent. Dans une comparaison inversée, entre parenthèses, il écrit « de longs vers se traînent comme des remords », mais cela signifie « mes remords se traînent comme de longs vers ». Et l'ennui est surtout une perte de l'être. Cela se voit dans les métaphores. Gros meuble, métaphore, comparaison, etc. Gros meuble, boudoir, même cimetière, sont des objets et des lieux familiers, des objets et des lieux de l'ici. Pyramide est tout à fait autre. Et les derniers vers s'éloignent dans l'altérité de la pyramide. Sahara, sphinx. On pourrait peut-être penser que le titre est aussi le signe d'une sorte de perte de l'être, dans le sens que c'est un titre en anglais. Un peu comme El Desdichado de Nerval a un titre en espagnol. Il est vrai que le mot spleen est attesté comme un mot, disons, français, un anglicisme, dès 1737. Dans la génération de Baudelaire, on utilisait le mot spleen comme maintenant, mais il me semble que même maintenant, on l'utilise comme un mot étranger à cause des deux E qui se suivent. Mais quand même, le sujet du poème, c'est l'ennui. Et Baudelaire aurait très bien pu appeler son poème « ennui ». Il a choisi de l'appeler « spleen ». Peut-être parce que le spleen est un sentiment étranger à ceux qu'on devrait éprouver. Et puis, l'ennui, c'est la disparition du jeu. Les objets s'éloignent peu à peu de l'ici, mais le jeu disparaît. Au début, j'ai plus de souvenirs. Un peu plus loin, je suis un cimetière. Un peu plus loin, je suis un vieux boudoir. Et puis, à la fin, tu n'es plus qu'un granit, etc. Très intéressant. Encore une fois, je note que c'est en réécrivant le poème que Baudelaire est tombé sur ce qu'il lui fallait. Au début, il avait écrit « Prends les proportions de l'immortalité et change lentement la matière vivante en un granit muet. » Et cette très longue phrase était très bien parce qu'elle montrait précisément, elle incarnait l'ennui qui est le sujet du poème. Mais il change tout pour pouvoir dire « Désormais, tu n'es plus. » Le jeu disparaît. Et en réalité, il a déjà disparu dans le boudoir vide. Les pastels et les bouchers sont seuls à respirer l'odeur d'un flacon. Encore une fois, seuls n'y étaient pas à l'origine. Je dis ça en partie parce que c'est rassurant pour un poète. Il est rassurant pour un poète de voir que le premier jet, même d'un très grand poème, un poète comme Baudelaire, n'est pas nécessairement merveilleux. En fait, la première version était très, très beau, très belle. Mais c'est un peu rassurant de penser que même Baudelaire est obligé de revenir constamment à son poème pour l'améliorer. Je note aussi l'association des idées. Le flacon va donner naissance au flocon. Et puis, à la fin, le moi devient un sphinx, c'est-à-dire une énigme, un sphinx ignoré et même oublié sur la carte. Le poème plonge dans un oubli qui est presque déjà mallarméen, et le jeu devient un poète malheureux. Baudelaire s'arrange pour remplacer ce qui est suggéré à la fin, c'est-à-dire une pierre de la statue dite de même nom à Thèbes, qui chantait ou qui émettait un son au premier rayon du soleil, par une énigme qui ne chante qu'une poésie du déclin et de la mort au moment du coucher du soleil. C'est un peu compliqué, mais on suit l'argument. Et l'argument signifie qu'à la fin, il s'agit précisément d'un poète, non pas simplement de Baudelaire, mais de Baudelaire poète, qui souffre dans les derniers vers et qui disparaît dans l'impossibilité de chanter autre chose que des chants de déclin et de mort. Et quand on y pense, c'est exactement ce qu'il dit de l'ennui dans le poème liminaire des Fleurs du Mal au lecteur. L'ennui, si vous en souvenez, est le plus redoutable des monstres, le dernier ennemi au lecteur. Il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde, dit Baudelaire. Et dans Spleen, le poème que nous sommes en train de lire, l'ennui remplit l'être de celui qui parle jusqu'à l'encombrement, puis le vide. Et il est important de noter que le spleen n'est pas la seule perspective sur les choses, Baudelaire écrit d'autres poèmes que celui-ci, et que le spleen trouve sa place dans un tout, est expliqué par un tout, comme il l'est déjà dans le premier poème des Fleurs du Mal. Il ne faut pas lire ce poème sans se référer au premier. Et il est expliqué aussi par la section du Fleurs du Mal où il se trouve, qui s'appelle spleen et idéal. Dans les notes nouvelles sur Edgar Poe, encore une fois, Baudelaire écrit dans un passage célèbre, il écrit « Immortel instinct du beau, la soif insatiable de tout ce qui est au-delà, une mélancolie irritée, une postulation des nerfs, une nature exilée dans l'imparfait et qui voudrait s'emparer immédiatement sur cette terre même d'un paradis révélé. » On trouve un petit moment dans Byron dont j'ai parlé l'année dernière. On trouve surtout une sorte de platonisme moderne et malheureux. Baudelaire commence par traduire Poe, cet immortel instinct du beau. Ensuite, il part dans du Baudelaire. Et vous voyez ce que je veux dire par platonisme moderne et malheureux. L'idée qu'il y a le vrai beau dans un autre monde inspire pour les romantiques, et en particulier Byron et Baudelaire, le sens non pas qu'il faut s'y efforcer, mais qu'il faut qu'on est malheureux à cause de cet éloignement. On est mélancolique, on est exilé dans l'imparfait. Et l'échec dans la recherche du beau, avec un grand B, comme pour ainsi dire chez Platon, l'échec dans la recherche du beau, de l'idéal, conduit vers l'ennui, et c'est évidemment ce que craint Baudelaire. Le poème est plein de peur, me semble-t-il. Dans son essai sur Wagner, il parle de l'ouverture de Tannhäuser et de la lutte dans cette ouverture entre le chant religieux et le chant voluptueux. Et il écrit un moment, enfin, le thème religieux reprend peu à peu son empire et absorbe l'autre, le thème voluptueux, dans une victoire paisible, glorieuse, comme celle de l'être irrésistible sur l'être maladif et désordonné, de Saint-Michel sur Lucifer. C'est un passage extrêmement profond d'abord, où il est question justement de l'être, mais aussi un passage extrêmement émouvant, parce qu'il est évident que Baudelaire craint pour lui-même d'être l'être maladif et désordonné. Il cherche ce qu'il appelle l'être irrésistible d'un Saint-Michel. Et curieusement, à lire cet essai, qui est relativement long et extrêmement intéressant, à lire cet essai sans connaître le reste de l'œuvre de Baudelaire, on supposerait que Baudelaire était un catholique très convaincu et très prêt à parler de sa foi. Lisez l'essai, c'est très évident. Un catholique convaincu, sans problème, etc., comme beaucoup d'écrivains français de l'époque, alors qu'ailleurs, on sait qu'il est la plupart du temps, disons, non-chrétien, et parfois tout à fait anti-chrétien, sataniste, etc. Et ce qui me fait penser que c'était peut-être une bonne chose pour la poésie de Baudelaire qu'il fût si troublé. Pour lui, évidemment, c'était angoissant, déprimant. Mais du fait de ne pas être fondé sur une certaine façon de voir le monde, du fait de vouloir très souvent penser en catholique, mais de se trouver encore plus souvent en train de penser autrement, le fait de ne pas être fondé sur une façon de voir le monde, lui donne la possibilité, à lui, je ne parle pas d'autres poètes, d'explorer de multiples façons d'être sans les relier à des croyances fondamentales. Spleen, ce poème, est ce qu'il est. Il ne le relie pas à autre chose, il ne le dit pas. Il y a évidemment d'autres perspectives sur la question. Spleen se développe tout seul. Et on sent son instabilité, l'instabilité de Baudelaire, et sa souffrance, mais aussi que sa poésie est inépuisable précisément à cause de cette richesse, de cette complexité de sa vie intérieure, de son être. Le temps a filé. La semaine prochaine, je parlerai de Mallarmé et du sonnet. Tenez-vous bien, celui qui commence, ses purs ongles très hauts, dédiant l'Orolix. Merci.